Bonjour, autre radio, autre culture, émission également diffusée sur 6e Paris Jazz. Là, nous avons fait 1000 km de Paris et nous sommes maintenant à la Seine-sur-Mer. Et je ne sais pas si vous entendez le chant des cigales, je vous laisse écouter. Et nous sommes plus particulièrement au musée du Fort Balaguier, musée à vocation marine, logiquement. Et j'ai en face de moi Julien Gomez, qui est conservateur du musée. Bonjour Julien.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Alors, nous sommes dans une région hyper ensoleillée. Il fait très 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 chaud, évidemment. Et c'est pas trop dur d'être conservateur d'un musée, comme ça, enfermé toute la journée ?
Non. Surtout que nous sommes dans un fort qui est assez... qui nous protège des températures extrêmes, vu que nous avons 6 mètres d'épaisseur.
C'est-à-dire que vous n'avez ni trop froid l'hiver, ni trop chaud l'été.
Tout à fait. Une climatisation naturelle du 17e.
C'est un fort du 17e, alors.
Voilà. Donc, il a été construit par ordre du cardinal de Richelieu, en 1636, et qui a été agrémenté sous Louis XIV d'un système défensif plus compétent et qui servait à défendre l'entrée de la rade de Toulon, puisque nous nous trouvons en face, Toulon.
D'accord. Est-ce que c'est un fort qui avait... sa vocation a été prouvée au niveau militaire ou pas ?
Alors, il n'a jamais été attaqué par la mer. Il a servi, donc il a bien défendu la rade de Toulon. Et il a été pris une seule fois. C'est par Bonaparte qui venait reprendre Toulon aux Anglais en 1793. Le fort de Balaguier se situe dans un ensemble de forts destinés à défendre la rade de Toulon, donc le port militaire. Tous ces forts témoignent d'une évolution de l'artillerie et des systèmes défensifs. On a eu un premier fort au XVIe siècle, une tour à canon, qui a été complétée par la tour de Balaguier au XVIIe, donc ce sont deux tours à canon. Ensuite, on a eu le fort de l'Aiguillette, qui est une batterie basse, qui date de Louis XIV, juste avant Vauban, donc ce n'est pas une construction de Vauban, qui servait aussi donc, à attaquer les bateaux en tirant au ras de l'eau. Et au 19e, avec le développement des cuirassés, on a construit une grande digue en 1880 qui fermait la rade de Toulon et tout un système de batteries hautes sur les collines pour défendre beaucoup plus loin et beaucoup plus un système de plus efficace.
Est-ce qu'ils ont gardé leurs canons ? Est-ce qu'il y a des canons d'origine ou
Alors sur Balaguier, on a des canons, mais ce sont des dépôts du musée de la Marine. De tous ces forts, il n'y en a plus qu'un qui a vraiment une vocation militaire. Alors, ce qui est original, c'est qu'ici, nous sommes locataires du ministère de la Défense. Donc, le bâtiment appartient toujours au ministère de la Défense et est prêté, mis à disposition par convention à la ville de la Seine-sur-Mer. Mais il n'a plus de vocation militaire. La tour royale, elle, a été achetée par la ville de Toulon. Et le fort de l'Aiguillette, lui, garde, s'il n'est plus utilisé comme batterie, il garde une fonction militaire puisqu'il est toujours considéré comme une vigie. Donc il surveille l'entrée, il se trouve en face le porte-avions, il surveille l'entrée de la rade. Donc tous ces forts, il y a un patrimoine militaire très important qui est à aménager, qui est en cours de mise en valeur.
Oui, il faut dire qu'il y a des forts innombrables sur la côte toulonnaise, mais sur toute la côte provençale. Finalement.
Et l'agglomération, ça a été le premier thème de la commission de tourisme de l'agglomération, la création d'une route des forts qui s'appelle Citadelle du Levant, et qui est avec le parcours en bateau de tous ces forts qui ne se voient mieux que de la mer.
Alors, quelle est la particularité d'un musée dans un fort comme celui-ci ?
Alors, donc on joue sur les deux tableaux. Donc déjà, le fort en lui-même fait partie du musée. Le visiteur vient pour visiter les fortifications. Donc, on a une salle d'exposition qui se trouve dans l'ancienne chapelle et deux salles qui se trouvent dans la tour. C'est une tour à canon sur deux niveaux, dont la salle principale est une salle voûtée assez imposante.
Il n'y a pas de problème de conservation, il n'y a pas d'humidité latente dans un fort.
Alors, selon les pièces, on a il y a peu de problèmes justement d'humidité. Il y a une protection de l'architecture fait qu'il n'y a pas. On est quand même dans des conditions acceptables.
C'est un musée qui se présente sous quelle étiquette en règle générale ? C'est un musée national ? C'est un musée municipal ?
C'est un musée municipal, donc entièrement en régie directe, qui est donc avec du personnel municipal. Un budget qui fait partie du budget de la commune de la Seine-sur-Mer. et qui bénéficie de subventions de partenaires territoriaux, le Conseil général du Var et le Conseil régional de la Provence Alpes-Côte d'Azur. Et donc il a une particularité, c'est un ancien musée de la marine. Donc jusque dans les années 80, il faisait partie des réseaux Musée national de la marine avec des dépôts du musée de la marine. Et vu que ça faisait un doublon avec celui de Toulon qui se trouve à moins d'un kilomètre par mer, la direction de Paris a retiré ses collections de Balaguier. Et depuis la fin des années 90, on est entièrement municipal.
Ils ne vous ont rien laissé au niveau des collections?
On a quelques dépôts pondéreux, c'est-à-dire les canons, dont les canons du siège de Toulon, et quelques maquettes qui étaient en double dans leur collection.
D'accord, des maquettes de navires de guerre
De guerre ou de commerce.
Au niveau, on parle de subventions, mais au niveau mécène, est-ce que vous en avez?
On a bénéficié cette année du mécénat, donc l'exposition temporaire de 2008, a pour thème le jardin botanique. Et nous avons réaménagé tous les jardins du fort, et pour cela nous avons bénéficié de trois mécènes, des pépiniéristes et de établissements botaniques, donc qui nous ont financé l'achat de plantes.
D'accord, ces établissements botaniques, lesquels sont-ils?
Donc les pépiniéraies à la Londe et le Villa Verde au Bossé.
Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment les gros pépiniéristes de la région qui ont aidé. Oui. Ça c'est bien, c'est sympathique. Oui. Alors pourquoi cette exposition justement sur les botaniques, les botanistes? Alors, pardon.
Et la marine.
Et voilà. La marine.
Le thème,
donc,
c'était
voilà.
le jardin botanique de la marine à Toulon, qui a existé au 18e et au 19e. Et donc il a disparu, donc on a travaillé, au départ on pensait faire une exposition sur les plantes médicinales, puisque c'était le jardin de l'hôpital militaire, et en fait on s'est rendu compte qu'en étudiant la correspondance des jardiniers qui est conservée au muséum à Paris, que beaucoup de plantes transitaient par Toulon, des fleurs, des plantes comestibles, des plantes industrielles, et que ces jardiniers étaient des hommes passionnés qui travaillaient sur plein de choses... Donc l'acclimatation de l'ananas, le blé, la culture des pâtes, le coton, tout ça a été fait par la marine au 18e.
Et que vous présentez ici?
Voilà, durant jusqu'en décembre,
une exposition sur ce thème. Donc vous présentez ça sous des formes de documents, comment ça se passe?
Alors on a eu de nombreux prêts du muséum à Paris, donc on a les herbiers historiques du muséum, la correspondance, les manuscrits des deux jardiniers qui ont travaillé pendant 50 ans chacun, qui correspondaient avec leur homologue à Paris. Et donc, ils s'échangeaient des graines et des conseils. Et tous les maquettes de Toin, qui était le jardinier du Jardin des Plantes, et qui servait sous la Révolution à donner les cours de jardinage.
Ça demande beaucoup de travail de monter des expositions pareilles.
Un an de préparation.
Et s'ils avaient des plantes particulières, je veux dire, complètement invraisemblables, qui transitaient par ici?
C'est plutôt des plantes qui, aujourd'hui, nous paraissent toutes basiques et connues, et qui à l'époque étaient invraisemblables, comme le blé de Pologne qui arrivait sous la Révolution et qui a servi à faire les pâtes, donc qui était complètement exotique, l'ananas, le néflier qui arrive aussi qui arrive de Chine, qui arrive à Toulon.
Ah, d'accord. Parce qu'il y en a partout maintenant.
Et après toutes les plantes qui portent le nom de ces explorateurs, le fuchsia, le magnolia, bougainvillier.
Ah, donc ce sont des plantes relativement récentes.
80% des plantes que nous connaissons aujourd'hui viennent d'Amérique, donc elles ont été rapportées après la découverte de l'Amérique.
Et quels sont, vous en avez planté donc qui vont rester?
Donc le jardin, donc on a profité de cette exposition pour recréer un jardin et évoquer ce jardin botanique, donc avec différentes parties sur les plantes industrielles, les plantes aromatiques, les plantes médicinales. Et donc on a planté, donc toutes ces plantes sont visibles, vivantes.
Alors moi j'avais lu un texte, c'était un texte du XVIe siècle, et c'est les Turcs qui arrivent, les Ottomans qui arrivent dans la rade de Toulon, et ils disent il y a quelque chose d'extraordinaire, ils disent c'est magnifique, on a une odeur de citronnier et d'oranger qui nous arrive, et ils trouvaient ça fabuleux. Et quand ils sont arrivés, tous les citronniers et les orangers sur toute la rade de Toulon, la Seine et Toulon étaient en fleurs, et pour les Turcs c'était quelque chose de merveilleux. Ça paraît surprenant maintenant.
Oui, voilà. Toutes ces plantes ont donné naissance aux plantes de la Côte d'Azur. Par exemple, le mimosa, qui est une plante emblématique, c'est une plante australienne qui a été ramenée par les Anglais sur la Côte d'Azur d'Australie parce qu'elle fleurit l'hiver.
Oui, qui maintenant est à l'état sauvage.
Le palmier, où on a le.
Voilà. Oui, il y en a plein partout.
Toutes nos plantes.
Alors là, nous sommes à l'intérieur du musée, nous sommes dans l'exposition. Et face aux plantes industrielles, alors vous m'aviez dit quelque chose de très particulier sur la construction des câbles sous-marins.
Oui, alors parmi toutes ces plantes sur lesquelles, qui vont transiter par Toulon et sur lesquelles les jardiniers vont travailler, donc il y en a plusieurs qui ont une utilité industrielle, dont le guttapercha, qui ne parle pas beaucoup de monde sans doute, et qui a été utilisé à la fois comme plante médicinale, puisqu'elle c'est un cicatrisant qui est toujours utilisé dans les pansements dentaires, et qui est à l'origine qui est aussi un isolant, et qui est à l'origine du chatterton, qui va donner naissance aux câbles sous-marins, donc isoler les câbles métalliques et pouvoir les mettre sous l'eau. Donc c'est toujours cette plante. Et on a aussi le coton qui va être implanté dans toute la région de Toulon et qui va être cultivé pendant une dizaine d'années de manière intensive, qui ensuite va être abandonné. Ça, la culture a marché, oui.
Comment ils faisaient pour arriver à déterminer ces plantes ? Est-ce qu'ils faisaient appel aux connaissances des populations locales, des autochtones, ou alors ils faisaient leurs essais eux-mêmes, par exemple au niveau des plantes médicinales ? Comment ils arrivaient à déterminer que ces plantes pouvaient servir à telle chose ou telle chose ?
Alors beaucoup de plantes justement, donc lors des expéditions, il y avait les botanistes, il y avait toute une armée de scientifiques qui partaient et qui étaient chargés depuis Louis XVI vraiment d'étudier toutes ces plantes et toutes les plantes qui pouvaient être utiles. Donc tout ce qui était utile, on devait les ramener. Donc ils travaillaient sur place, oui. Donc par exemple pour le lin de Nouvelle-Zélande, donc les marins ont travaillé et ont remarqué qu'il était utilisé par les Maoris et qu'ils le tressaient. Et donc il est ramené à Toulon et le jardinier est chargé d'étudier une application sur le cordage.
Par exemple pour le chardon, quelle spécificité il a de particulier par rapport à notre chardon français ? Parce que à moins que le chardon n'ait jamais été français.
C'est une plante méditerranéenne et on le retrouve. Le jardinier de Toulon va travailler sur le chardon d'Espagne, donc qui était mangé en Espagne et qui va donc essayer de le cultiver pour. De façon à développer. Donc, on est à l'époque de la Révolution, il y a beaucoup de problèmes de famine, donc on essaie de trouver des plantes qui se cultivent facilement et qu'on puisse manger, qui puissent résoudre ces problèmes-là.
Et qu'est-ce qui se mange dans le chardon ?
La racine. La racine et la fleur, donc une sorte d'artichaut.
D'accord. Écoutez, moi je vais voir dans mon jardin ce que je vais pouvoir faire des chardons. Philippe, tu vas avoir peut-être une salade de chardons.
Donc c'est la même famille que les cardes.
Chardon. D'accord. Alors toutes ces plantes que l'on voit ici, on voit la pivoine, on voit l'orchidée, on voit le crocus, le bougainvillier et autres, pour nous ça fait partie du paysage local. Est-ce que ce sont des plantes qui... Ils ont eu du mal à les acclimater ou ça s'est passé naturellement ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pertes ?
Alors il y a des plantes qui ont été difficilement acclimatées et d'autres, donc après les botanistes ont travaillé sur les climats et les plantes qui s'acclimatent le mieux à nos climats méditerranéens, ce sont celles qui ont notre climat dit méditerranéen mais ailleurs, en Australie et en Afrique du Sud et en Argentine, donc ce sont les plantes qui ont des climats assez semblables aux nôtres et qui se sont très bien acclimatées, donc on a l'eucalyptus, le mimosa qui proviennent d'Australie et d'autres plantes aussi d'Afrique du Sud.
Et toutes ces plantes-là, ça a été pareil, je veux dire, pour la pivoine, pour... On a le frésia qui pousse comme du chien-dent ici, ça a été pareil.
Ça proviennent également des Antilles.
Des Antilles, d'accord. Pourtant, les Antilles, c'est très, très humide, donc on est étonné que dans un climat provençal, ça puisse s'acclimater aussi bien.
Ça s'est acclimaté, oui. Même les palmiers ou des plantes qui avaient besoin de... se sont adaptées au climat.
Alors là, nous sommes en train de nous balader dans les jardins du Fort Balaguier, qui sont adorables. Ça, j'avoue que je suis enthousiasmée par ce jardin. Alors, qu'est-ce que c'est que le jardin des simples ?
Alors, les simples, ce sont les plantes qui sont à la base de tous les médicaments et que l'on utilisait en tisane ou en cataplasme. Donc, il y a la menthe, la sauge, le thym, le romarin. Voilà, toutes ces plantes qui, depuis l'Antiquité, sont utilisées en médecine traditionnelle.
Et là, nous nous trouvons à quel endroit ?
Alors là, ici, nous nous trouvons dans l'ancienne poudrière, oui. Donc qui a été en partie détruite en 1945. Et donc là, on a reconstitué le potager. Toutes les plantes alimentaires. Donc on a toutes les plantes locales, les basiliques, des choux, des salades, des tomates.
Alors nous sommes dans un endroit abrité, il y a un petit peu de soleil. C'est, C'est très joliment fait. Et, mais alors c'est assez curieux parce que tout est fermé et on a une espèce de
toile d'araignée.
De toile d'araignée sur la tête. Alors ça fait pourquoi ?
Alors c'est pour protéger ce jardin de, parce que nous cohabitons avec un paon qui vit ici depuis 30 ans et qui est très, très gourmand de ces choses toutes fraîches et salades. Donc on lui a interdit l'accès à cette partie sensible.
Oui, parce que le musée est quand même particulier. On est accueilli, quand on arrive, on est accueilli par un paon qui est magnifique et absolument pas sauvage et qui se balade comme ça. On l'a vu tout à l'heure à côté de la fontaine. Et donc, monsieur est très friand de vos légumes et de vos plantes.
Voilà.
Moi, je trouve ça adorable. C'est vraiment adorable. Donc, je conseille à tout le monde d'aller faire un petit tour au musée Balaguier. C'est superbe. Alors ici, nous sommes dans le niveau du jardin aquatique. On a une espèce de mur fontaine, de cascade en rocaille, avec des plantes aquatiques. Est-ce que c'est uniquement pour la décoration ou si ça a une relation avec l'exposition ?
Toutes ces plantes qui ont été plantées dans le jardin ont été retrouvées sur les listes des jardiniers de la marine. Donc ils ont travaillé sur ces plantes décoratives.
Même celle-ci, là,
Tout à fait, oui.
Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je sais qu'on met ça dans les bassins.
Donc il y a des fougères.
Il y a des iris.
Des mousses aussi, ils ont travaillé sur les lichens.
Voilà, et puis on a des plantes qui ressemblent à des espèces de cannes, là, qui sont très jolies. Enfin, c'est rafraîchissant en tout cas. On est en plein soleil, là, et c'est rafraîchissant.
Et juste à côté, nous avons créé la nurserie des plantes, qui est un espace destiné aux plantes en pot et qui sont.
Et vous vous en occupez ?
Il y a trois jardiniers qui s'occupent.
Ah, c'est vraiment ravissant. Moi, je suis enthousiasmée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à l'exposition, mais pas à un jardin pareil. Et moi, je trouve féerique. Hein. Vraiment adorable. Alors, hier, j'ai interviewé, en fait, ceux qui avaient travaillé sur les maristes, sur les lettres des maristes. Et je sais que vous avez travaillé en collaboration avec eux sur une exposition qui a eu lieu il y a 2 ans sur les objets océaniens.
Ramenés par les missionnaires. Donc, c'est une exposition qui a eu lieu sur 2 sites, au service historique de la Défense à Toulon et sur Balaguier. Donc, on a travaillé, on a été 3 avec Madame Babex, la bibliothécaire du service historique, et M. Rojourdan, qui est professeur d'histoire.
Quel est l'impact de ces expositions sur les autochtones, dirais-je ? Est-ce qu'ils sont ouverts, ils sont intéressés, ils se déplacent facilement ?
Selon le thème des expositions, il y a des expositions qui attirent plus les gens du coin que d'autres. L'année dernière, nous avons travaillé sur Michel Pacha, qui est un personnage local, et c'est une exposition qui a attiré énormément de personnalités locales, sénoises.
Oui.
Alors que Vauban a plus attiré les touristes.
Les touristes. Et pour cette exposition, par exemple,
cette exposition attire énormément de monde et un nouveau public, puisque ça concerne les gens qui s'intéressent aux plantes, aux jardins. Même si elle est à caractère historique, elle attire d'autres personnes qui s'intéressent.
Est-ce que les gens ont tendance à revenir dans votre musée ou
On a une exposition temporaire par an et des animations régulièrement pour faire venir justement ces publics-là, du théâtre, du cinéma. Donc l'été, dans les
Est-ce
jardins,
on profite... Est-ce que vous faites du théâtre ou du cinéma complètement extérieur aux expos et autres ? Ça n'a aucun rapport ?
On prend un thème qui est lié à l'exposition, pour les projections de films, ou quelque chose de très différent justement pour cibler un autre public. Donc là, on a fait un concert de jazz, donc ça a amené le public du jazz. On a fait du théâtre de boulevard, ça amène aussi un autre théâtre, le théâtre de rue.
Alors quel est l'expo de rêve pour vous ?
Alors c'est celle que je prévois pour dans 2 ans,
oui.
Qui aura pour thème les artistes et le bagne. Donc c'est une exposition qui va parler de la production artistique des bagnards.
Est-ce que vous faites ça en partenariat avec un autre musée ou pas ?
Alors
du tout
ce sera en partenariat sans doute avec le musée de Saint-Martin-de-Ré.
Ah oui, effectivement.
Donc
oui.
D'où partaient les bagnards pour l'outre-mer, et j'espère avec des établissements de Guyane.
Alors là, nous sommes dans le bureau de Julien, et alors c'est un bureau fabuleux parce qu'on voit plein de maquettes.
C'est un bureau réserve.
C'est un bureau réserve.
Voilà.
Oh, c'est quand même pas que les réserves, les seules réserves du musée.
Non, non, mais voilà. Alors, on manque de place.
Il y a plein de maquettes partout qui sont assez fabuleuses. D'où viennent-elles ?
Alors, il y a une partie, ce sont les maquettes qui ont été faites par les maquettistes du musée de la Marine. donc ce sont les doubles du musée de la Marine. Et pour l'essentiel, ce sont des dons. Alors, on a reçu en 2000 un don exceptionnel d'anciens des chantiers, donc avec les maquettes historiques, une quinzaine de maquettes historiques des chantiers, dont certaines qui sont du 19e. Ou sinon, ce sont d'autres maquettes. On a des ex-voto, des maquettes. Donc, derrière vous, vous avez un bateau qui servait, anglais, qui servait à ramener le thé des colonies. Ou sinon, donc, on a les bateaux, donc le Normandie, qui a ramené les cendres de Napoléon. Donc, toutes ces maquettes proviennent de dons.
Ah, et qu'est-ce que vous avez encore comme au niveau de l'exposition
Des collections.
Des collections, des expositions permanentes, qu'est-ce que vous avez à peu près?
Alors, il y a une exposition temporaire par an et une exposition permanente sur l'histoire des bagnes de Méditerranée et d'Outre-mer. Donc Marseille, les galères à Marseille, à Toulon, le bagne de Toulon et la Nouvelle-Calédonie et la Guyane. Donc on a une collection, voire la collection la plus importante de marqueterie de paille, d'objets faits par ou attribués au travail de bagnard au 18e et au début du 19e. Une collection aussi importante de caricatures qui a été faite en Guyane par les bagnards et qui c'est également un don de la fille de l'ancien médecin du bagne. Et aussi tout ce qui traite du siège de Toulon et de Bonaparte.
Il y a beaucoup de choses à ce niveau-là?
Gravures, images d'Épinal.
D'accord. Et sur les chantiers navals de la Seine, est-ce que vous récupérez, est-ce qu'il y a eu des dons, ne serait-ce de la municipalité ou de ces chantiers privés, ou des ouvriers même de ces chantiers?
Alors les chantiers ont fermé en 1986, et le premier don, ça a été donc une association dont je vous parlais, qui a donné à la ville des photos, les maquettes, des hachettes de lancement, plein de choses qu'ils ont récupérées à la fermeture dans les bennes. Et tout ça, ça a été donné en 2000. Et depuis, il y a des dons de plus en plus nombreux d'anciens des chantiers ou des enfants des anciens des chantiers. Donc il y en a compté 20, il y a une génération
pour arriver
à ce que les dons arrivent. Oui. Ça n'a pas été immédiat.
En fait, ceux qui ont travaillé sur les chantiers les conservent encore jalousement parce que c'est leur mémoire à eux.
Ou s'en débarrassent parce qu'ils veulent oublier.
Ils s'en débarrassent finalement, ouais. Ou ils veulent oublier. Sinon, après, c'est les petits-enfants qui,
eux, ne voient pas l'utilité de les garder, qui préfèrent les donner, ou les gens eux-mêmes qui commencent à avoir fait le deuil de cette période et qui se replongent dans leurs papiers qu'ils ont enfermés.
Est-ce que vous récupérez des témoignages? Des témoignages oraux que vous...
Alors, il y a les archives départementales qui font un travail en ce moment sur les femmes et les chantiers. Donc, les femmes qui travaillaient, les femmes d'ouvriers, les femmes d'ingénieurs. Donc, il fait un travail cette année pendant 2 ans en partenariat avec l'Université d'Aix-en-Provence de sociologie.
Donc tout ce qui est en fait archives, est-ce que c'est parti aux archives départementales, aux archives municipales ou ça a été détruit?
Alors, les archives municipales ont la partie archives de la donation qui a été faite en 2000. Les archives départementales aussi en font sur les chantiers, sur le fonds technique. Et les archives du monde du travail à Roubaix, à les archives de la société parisienne, donc tout ce qui est les relations avec les actionnaires. Mais encore, l'essentiel est dans des collections privées ou des...
Est-ce que vous avez des dons au niveau archéologique de gens qui ont trouvé des choses dans la rade et qui viennent vous les apporter ou de quelque temps?
En archéologie, pas du tout, non.
Pas du tout.
Les dons concernent essentiellement tout ce qui est ATP, donc l'agriculture, pêche, charpenterie de marine aussi.
Parce que je sais que par exemple, il y a des plongeurs qui ont trouvé énormément de pipes en terre cuite.
Non, on n'en a pas eu.
Ils se sont fait des collections extraordinaires. Et c'est bon. C'est pour ça que je me disais peut-être qu'il y en a qui finalement vous ont apporté des collections. Et...
Non.
Non, pas du tout.
Non, c'est plutôt des objets qui ont une histoire personnelle.
Oui.
Donc le donateur donne parce qu'il veut que ça reste. Et pas des objets. Dès que ça a une valeur marchande, ça ne... Il faut qu'il y ait quelque chose de sentimental pour faire le pas de donner.
Au niveau des acquisitions, comment ça se passe? Est-ce que vous bénéficiez d'un budget pour acheter des objets, faire des acquisitions intéressantes? Comment ça se passe?
Alors, il y a très peu de budgets, donc ce sont les budgets d'investissement, les collectivités territoriales, et les finances locales étant de la commune étant ce qu'elles sont, il y a peu d'acquisitions, voire pas du tout d'acquisitions par achat.
Mais il y aurait une volonté ou pas? Il y aurait un intérêt pour ça ou pas?
C'est pas dans les priorités. Donc les acquisitions sont essentiellement des dons.
Alors ça peut être des dons importants par an, est-ce qu'au niveau nombre de 5-6 pièces.
5-6 dons, mais ce sont pas à chaque fois, ce sont des petites pièces.
Qui restent dans les collections, enfin dans les réserves finalement, parce que ça ne doit pas être toujours facile à présenter.
Selon l'exposition temporaire. Et après, donc, il y a toute une politique de prêter les objets et de faire vivre ces objets en dehors du musée. Donc là, on travaille, on a quelques collections sur la conquête de l'Algérie qui vont aller au futur musée de Montpellier. On a quelques collections aussi en ce moment qui sont au musée de Saint-Raphaël, des maquettes de bateaux. Voilà, donc on essaie de faire vivre ces objets en dehors du musée.
Alors je parlais archéologie tout à l'heure parce que je sais que vous préparez une prochaine exposition sur les naufrages. Oui. Alors ça va être une exposition très particulière puisqu'en fait c'est les naufrages de la marine à vapeur si j'ai bien compris.
Voilà, donc l'idée c'était de parler d'épaves et ne pas parler d'épaves antiques et d'amphores. Et...
Oui, c'est bien ça.
De sortir du cliché et de prendre des épaves qui sont très proches de nous. Et qui sont paradoxalement peut-être moins étudiés. Et donc c'est une exposition qui est réalisée en partenariat avec un autre musée. Donc on cherche toujours des partenariats pour limiter les finances et pour. Donc elle est réalisée avec une autre collectivité territoriale, c'est la ville de Saint-Raphaël qui possède un musée archéologique. Qu'il y a une première partie de l'exposition en ce moment à Saint-Raphaël qui parle d'une trentaine d'épaves. Et nous aborderons 5 épaves, dont 3. 3 bateaux qui ont été construits au chantier de la Seine.
Qui sont coulés dans les environs ?
Des 5 épaves, il y en a 4 qui se trouvent dans la grande rade de Toulon et une qui se trouve dans la baie d'Alger. C'est un bateau qui assurait la liaison Toulon-Alger, mais qui a coulé, lui, de l'autre côté de la Méditerranée.
D'accord, ce sont des épaves de quelle époque ? 19e siècle ?
Alors la première donc c'est le Sphinx, qui a été construit en 1829, et la dernière, c'est Napoléon III.
Dans votre exposition, il va y avoir l'épave du Magenta. On a beaucoup entendu parler de l'épave du Magenta parce qu'il transportait des objets. Vous parliez dans l'objet antique, mais finalement, vous êtes bien obligé d'en parler puisqu'il transportait des objets antiques venant d'Égypte.
Non, de Tunisie.
De Tunisie.
C'est un autre. C'est les relations de la Méditerranée, les échanges au 19e, les échanges d'antiquité. Oui, donc ce bateau a explosé en rade de Toulon avec une cargaison de 2500 stèles puniques et une statue de l'impératrice Sabine, la femme d'Adrien, qu'on a pu récupérer en partie. Donc il y a eu les premiers scaphandriers sont allés chercher les stèles et une partie des stèles et ont remonté la statue sans sa tête.
À l'époque.
L'année suivante, ils ont remonté l'essentiel des collections d'antiquités. Qui se trouve depuis au musée du Louvre. Ouais. Et dans les années 90, donc les premières fouilles du Magenta ont eu lieu, et on a remonté la tête de l'impératrice.
Ouais, donc
qui a réintégré son
voilà, parce
son
qu'on
corps.
Avait. C'était Max Giroux du groupe de recherche en archéologie navale qui m'avait dit on a retrouvé la tête de Sabine. Je me suis dit, plaisante ou pas? Et en fait, il y avait eu toute une cérémonie, je crois, au Louvre pour remettre la tête de la Sabine sur la statue.
Alors, une réflexion, puisque la tête de la Sabine récupérée était noire, due à l'explosion. Et au 19e, donc, quand ils ont ramené le corps, ils ont fortement nettoyé le marbre, qui était aussi noir, du corps de l'impératrice. Et donc le souci, c'est de savoir, est-ce qu'on intègre la tête noircie à la statue ou pas ? Est-ce qu'on la nettoie ? Est-ce qu'on la nettoie pas ? Et il a été décidé de garder la tête dans son état, pour montrer la catastrophe, dans son état noir, d'en faire un moulage et de remplacer sur la statue pour qu'elle ait un aspect blanc.
Donc,
on voit, donc c'est un moulage... Et la tête est à côté, dans une vitrine.
Ah, ça, c'est curieux comme expérience, c'est aussi intéressant. Ouais. Et il y a de nouveaux objets qui ont été remontés, très particuliers.
Donc, ils ont retrouvé
d'autres. Du groupe,
d'autres donc, M. Guéroux, qui pilotait les recherches, a ramené des stèles, qui ont réintégré aussi le Louvre, et beaucoup d'objets. Donc, ils ont du quotidien, du bateau, de la vaisselle, des chaussures.
Est-ce que vous allez en présenter quelques-uns ?
Alors, nous allons présenter tous ces objets.
Ah,
donc
ça, c'est bien.
Un hublot, donc ils ont remonté un hublot, beaucoup de matériel de pharmacie, des brosses à dents, des chaussures, et des parties de vêtements. Ils ont même trouvé des obus.
Ça va faire une belle exposition, ça.
Donc, ça va être le gros des collections qui vont être montrées, ça va être sur le Magenta. puisque bon, sur le sphinx a coulé très près de la côte, donc il a été pillé très vite et il ne reste plus rien. Ils n'ont plus que ramener que 3 clous.
Oui, parce qu'on parle du pillage des épaves antiques, mais il faut bien dire que les épaves récentes, en fait, du 19e et début 20e siècle, sont encore plus pillées, puisque non seulement on récupère un morceau de céramique ou autre, mais on prend un hublot, on prend un bout de ferraille, comme souvenir, et, alors que c'est strictement interdit. Et moi, je le vois dans tous les clubs de plongée, ils le font. Je sais pas, on cherche le souvenir de vacances, en fait. Et en fait, ces épaves métalliques se détruisent déjà beaucoup plus rapidement que les épaves en bois et autres. Et de plus, je pense que d'ici même pas 50 ans ou 100 ans, on n'en aura plus de traces. C'est pour ça que c'est très intéressant la démarche que vous faites au niveau de l'exposition. Je ne crois pas qu'il y ait eu d'exposition à ce niveau de la marine à vapeur naufragée, je veux dire. Donc je vois que vous êtes très occupé. Mmh. Parce qu'on vous voit dans les cigales et les cyprès, et on se dit, oh là là, ça doit être très cool d'être conservateur du musée Balaguer, mais finalement, vous n'arrêtez pas.
Pour toutes ces recherches, chaque fois, c'est quelque chose de très, très différent. Donc je suis passé de Vauban 2007, ensuite on a travaillé sur les plantes, avant c'était sur Michel Pacha, juste avant c'était sur Fernand Pouillon, un architecte.
Vous avez une visée de combien? C'est-à-dire, vous voyez sur 2 ans, sur 3 ans?
Alors malheureusement, c'est assez court. Donc on travaille avec la validation des élus, donc il faut présenter un projet aux élus. On est soumis aux contraintes budgétaires, donc les budgets sont des budgets annuels. Donc c'est très difficile d'engager sur 3 ans, prévoir des expositions à long terme, à moyen terme.
Ça vous arrive de travailler en prévoyant une exposition, en vous disant, je travaille dessus, mais c'est pas sûr du tout qu'elle sera possible?
Oui. Parce que c'est toujours soumis à la volonté des élus.
C'est facile d'y persuader.
Ça fait partie de mon travail.
Je voulais qu'on parle également des catalogues, parce que vous êtes un des musées qui fait systématiquement un catalogue pour chaque exposition. Oui. Je peux dire que c'est pas courant, parce que je connais beaucoup de musées qui font des expositions temporaires et qui n'en font jamais. Et vous faites de très jolis petits catalogues.
Alors le premier catalogue, ça a été sur les missionnaires, donc en Océanie, sur les maristes. Et donc ça a été l'occasion de publier tous ces objets qui sont conservés dans un petit musée qui fait partie de la congrégation, dans les monts du Lyonnais, perdu dans un endroit hostile. Et c'est des collections qui sont très rares et très précieuses parce qu'elles sont très différentes des collections qu'on peut trouver dans les musées publics qui, elles, proviennent des donations des scientifiques ou des militaires qui ramenaient un certain type d'objet. Et les missionnaires, eux, vont s'attarder sur d'autres objets, les objets du quotidien, parce qu'ils vivaient vraiment sur ces îles, surtout en Mélanésie, au quotidien avec les Mélanésiens. Et ils ont ramené beaucoup de choses... Donc c'est ces objets qu'on a présentés, qu'on a publiés dans le catalogue.
Alors je sais que vous avez publié les objets et quelques extraits de ces fameuses lettres.
Des lettres des missionnaires qui sont assez humainement assez fortes, puisqu'ils sont confrontés au cannibalisme, ils sont confrontés aussi à leurs préjugés. Et vraiment on s'est rendu compte qu'ils étaient obligés de connaître les gens puisqu'ils étaient vraiment en contact avec eux et c'était une question de survie. C'était ça où ils se faisaient manger. Et beaucoup ne sont pas revenus de ces missions.
Autre catalogue que vous avez fait?
Alors le suivant, ça a été en partenariat avec le magazine Connaissance des Arts, ça a été un hors-série qui a pour thème Michel Pacha et l'architecture balnéaire à la Seyne-sur-Mer. Ensuite, on a eu donc en collaboration avec le Musée National de la Marine Vauban à Toulon. Donc c'est le premier ouvrage qui a pour thème Vauban et la ville de Toulon. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui et dans l'imaginaire ou dans la réalité? Et le dernier, donc cette année, c'est le Voyage des plantes. Donc sur toutes les grandes expéditions et toutes ces plantes qui ont transité par les jardins de la marine de Toulon.
Est-ce que ces catalogues sont encore disponibles?
Alors ils sont tous disponibles en vente à Balaguier.
Donc on peut les commander, si je mets l'adresse sur le site.
Par correspondance, on peut les envoyer sans problème.
Et ils valent combien? Ils valent tous la même somme?
De 8 à 15 euros.
De 8 à 15 euros. Alors moi je vous les conseille, hein, auditeurs chéris, parce que ce sont des petits catalogues, qui sont des petits bijoux, qui sont vraiment excessivement bien fait, avec de très 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 belles photos en général. Je vois le catalogue sur justement les objets océaniens, les objets sont magnifiques et c'est vrai que je les recommande.
Surtout très rares.
Et très rares.
Les photos, s'il y a les photos faites par les missionnaires, donc oui. à la fin du 19e, en Nouvelle-Calédonie, qui sont assez, assez impressionnantes. Et...
Bien, bah écoutez, je ne vois plus très bien grand-chose à dire, hein. On va s'arrêter là. Merci de nous avoir accueillis.
Merci à vous.
Et puis, bah, je vous souhaite bon montage pour la future exposition. Exposition qui aura lieu quand ?
Alors, du 14 février au 31 décembre 2009.
14 février, et celle-ci, donc, se termine quand ?
Le 31 décembre 2008.
31 décembre 2008, donc, c'est la fin
du... Le voyage des plantes.
Le voyage des plantes, qui est présenté au musée Balaguier. Et la prochaine exposition, c'est sur les naufrages des navires à vapeur, au moins de 5 navires à vapeur, qui ont coulé, donc,
dans
la rade de Toulon.
Dans le Var.
Voilà. Très bien, merci Julien, merci. Je vous souhaite bon courage, bonne recherche, et puis ben, à la prochaine fois.
D'accord.
Au revoir.
Autre radio, autre culture.